8h10 en temps universel, 9h10 à Washington. On vous retrouve, Mickaël Ponge, pour le journal d'Haïti et des Amériques. Bonjour Mickaël.
Bonjour Marion, merci. Il savait qu'il avait perdu Donald Trump et son grand mensonge de l'élection volée au cœur de la nouvelle audition publique hier de la commission du 6 janvier aux États-Unis. Ils attiraient des milliers d'abonnés. Twitter, Instagram et consorts suppriment les comptes de chefs de gang haïtiens sur leur réseau. On en parlera avec Godson Pierre d'Alter Press. On ira aussi à La Paz, en Bolivie, où a eu lieu ce week-end la fête du Grand Poder entre religion et business. Et puis avec vous, Tiziana Maron, cette marche blanche hier en Guyane pour dire stop aux violences.
Oui, plus de 400 personnes ont rendu hier un dernier hommage au jeune Benaya Mangal, 16 ans, tué à l'arme blanche. Les détails à suivre.
Le journal de la première, c'est dans une quinzaine de minutes avec vous. Donc Tiziana, bienvenue à tous.
Remember where you were on the night of the election, November the 3rd?
I was at the White House.
La voix d'Ivanka Trump, fille de l'ex-président des États-Unis, que l'on a entendue hier à la télévision américaine dans le cadre de la deuxième séance publique de la commission parlementaire chargée d'enquêter sur l'attaque contre le Capitole de Washington le 6 janvier 2021. On en a beaucoup parlé, cette série d'auditions publiques retransmises en direct à la télé a débuté la semaine dernière. Ce coup-ci, Guillaume Nodin, il s'agissait de démontrer que Donald Trump était tout à fait conscient que l'élection ne lui avait pas été volée.
Donald Trump, ça... Il savait que c'est bien Joe Biden qui a gagné l'élection de novembre 2020. Il savait qu'il n'y a pas eu de fraude massive à même de changer le résultat. Il le savait parce que tout le monde le lui a dit. C'est ce que la commission a voulu montrer avec des témoignages de personnalités exclusivement républicaines. Sa fille Ivanka, son gendre Jared Kushner, des journalistes de la chaîne d'information conservatrice Fox News, son directeur de campagne Bill Stepien et même son ministre de la Justice. À plusieurs reprises, William Barr lui a expliqué qu'il n'y avait aucune preuve de tricherie. Il appelle des conneries, du n'importe quoi et des trucs fous, ces affirmations, avant de décrire un président qui a perdu contact avec la réalité.
J'étais démoralisé parce que je me suis dit, s'il y croit vraiment, c'est qu'il est détaché de la réalité. D'un autre côté, quand je lui en parlais, que je lui disais à quel point ses allégations étaient fausses, il ne montrait pas d'intérêt pour les faits avérés.
Donald Trump savait et pourtant il a préféré dire autre chose, dire qu'il avait gagné dès le soir de l'élection, n'écoutant personne d'autre que son avocat Rudy Giuliani, décrit comme ivre ce soir-là par des témoins. Ce mensonge est devenu l'élément central de son discours, il a poussé vers la sortie ceux qui s'y opposaient, il a surtout, selon la commission, convaincu les émeutiers de venir à Washington le 6 janvier 2021 et il les a convaincus d'ouvrir leur porte-monnaie. Les appels aux dons lancés par l'équipe de Donald Trump ont permis de rapporter près de 250 millions de dollars à son organisation. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Et bonjour à vous, Christophe Paget.
Bonjour.
La presse américaine a évidemment suivi cette deuxième journée d'audition.
Avec d'abord la réaction de l'ancien président. The Hill explique que Donald Trump a sorti un document de 12 pages en réponse aux premières auditions. Un document qui répète une poignée d'allégations censées prouver que l'élection de 2020 a été volée et truquée par les démocrates. Des affirmations déjà réfutées, précise le site d'information. Comme celle selon laquelle plusieurs États, comme la Pennsylvanie et le Michigan, ont pris davantage de temps pour compter les bulletins afin de rajouter des votes frauduleux. Une théorie connue comme le mirage rouge, que l'ancien rédacteur en chef de Fox News est venu réfuter lui-même ce lundi. Dans le Los Angeles Times, la journaliste Lauren Ali rappelle qu'une insurrection n'a rien de drôle, mais affirme-t-elle, il était difficile de ne pas rire ce lundi en écoutant les machinations bizarres, les théories conspirationnistes absurde et les conseils avinés que le président Trump a utilisés pour faire croire qu'il avait gagné l'élection.
Le Washington Post, lui, est très sérieux.
Il se demande pourquoi l'équipe dite « normale », dirigée par l'ancien directeur de campagne de Donald Trump, Bill Stepien, qui a témoigné hier et qui affirme être arrivé à la conclusion que toutes ses allégations étaient fausses, pourquoi cette équipe ne l'a-t-elle pas dit avec davantage de force fin 2020 quand Donald Trump essayait de renverser les résultats ? De toute façon, se désole le Washington Post dans un autre article. Quelles que soient les preuves qui seront données par le comité sur le 6 janvier, ce ne sera pas suffisant pour certaines personnes. Des personnes pour qui le simple fait que Donald Trump parle de chasses aux sorcières pour chaque enquête le visant suffit à les décrédibiliser.
En tout cas, les auditions publiques donc de cette commission continuent la prochaine. La troisième aura lieu demain, mercredi. Elle devrait démontrer comment Donald Trump a fait pression sur le ministère de la Justice pour que celui-ci affirme qu'il y avait eu fraude généralisée lors donc de l'élection à Washington. Comme à Port-au-Prince, il est 9h et presque 15 minutes.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
L'actualité haïtienne marquée par la perspective d'une nouvelle pénurie de carburant, c'est à la une du site Alter Press. Son rédacteur en chef, Godson Pierre, est avec nous. Bonjour Godson.
Bonjour Michael.
Les produits pétroliers se font donc de plus en plus rares en Haïti, Godson.
Oui, cette réalité est récurrente à Port-au-Prince et dans les villes de province. Plusieurs stations d'essence restent fermées en dépit de la livraison annoncée de produits pétroliers. Le prix du carburant a encore doublé, même triplé sur le marché informel depuis fin mai, avec d'importantes conséquences, bien entendu, sur le transport et diverses activités économiques et sociales. La brigade syndicale anticorruption dénonce le phénomène. Ce serait le résultat de la décision prise par l'État de libéraliser le marché pétrolier en Haïti, critique cet organisme.
À lire aussi sur Alter Press aujourd'hui, Godson, des comptes de chefs de gang suspendus sur les réseaux sociaux.
La plupart de ces comptes ne sont plus directement accessibles sur Twitter, TikTok, Facebook et Instagram. Les compagnies ont pris cette décision après avoir été interrogées par le journal américain Washington Post, qui a publié un article sur le sujet le week-end écoulé. Nous avons cependant constaté que des contenus très menaçants des chefs de gang de la zone métropolitaine continuent de circuler à travers divers comptes. Ils véhiculent des messages faisant l'apologie de la violence, servant à intimider la population et délégitimer les institutions de l'État.
Et puis ce chiffre aussi, au moins 44 policiers nationaux ont été assassinés à différents endroits d'Haïti en un an, c'est-à-dire entre juin 2021 et ce mois-ci.
Mais ce bilan est établi par le Réseau national de défense des droits humains au moment où la police nationale vient de célébrer son 27e anniversaire. Durant la même période, les bandits armés ont effectué 11 attaques contre des commissariats, sous-commissariats, antennes, ainsi que des patrouilles fixes dans diverses régions. Alors que tant à Port-au-Prince qu'en province, les agents et les agentes de la police ne disposent pas de matériel adéquat ni suffisant pour effectuer convenablement leur travail. Une situation à laquelle les autorités doivent rapidement remédier, recommande le RNDDH.
Et c'est donc à lire aujourd'hui sur le site de l'agence Alter Press. Godson Pierre en ligne avec nous de Port-au-Prince, merci.
Radio France Internationale. Las voces del mundo.
Tout avait commencé dans le calme hier à Quito, en Équateur, et puis cela a dégénéré. Débordements et heurts avec les forces de l'ordre. Christophe, la plus grande organisation indigène, a commencé à se mobiliser. Des barrages routiers ont été érigés.
La CONAIE, la Confédération des Nationalités Indigènes de l'Équateur, avait appelé à manifester entre autres contre le coût élevé de la vie et pour une baisse du prix des combustibles. 10 points, 10 demandes ont été établies par la CONAIE. Dans Expresso, le ministre Francisco Jiménez affirme que le gouvernement a des réponses pour chacune d'entre elles, expliquant par exemple que le prix de l'essence n'a pas augmenté depuis 6 mois. En fin de semaine dernière, le gouvernement avait appelé au dialogue, rapporte El Comercio, mais la CONAIE avait insisté sur le fait qu'elle n'avait reçu aucune réponse depuis un an. Aujourd'hui, le gouvernement affirme que le nombre de manifestants a été inférieur à celui attendu, rapporte La Hora, alors que la CONAIE présente la grève comme un succès. En tout cas, des routes ont été bloquées dans au moins 16 provinces, affirme El Universo, lors de ce premier jour de grève présenté comme progressive et reconductible.
L'incertitude toujours au Brésil au sujet du sort du journaliste britannique Dom Phillips, c'est de l'expert brésilien des peuples autochtones Bruno Pereira qui l'accompagnait. Tous les deux ont disparu en Amazonie depuis près de 10 jours, près de la frontière avec le Pérou, dans une zone extrêmement dangereuse où pullulent les divers trafics. Hier, on disait que les corps avaient été retrouvés avant, finalement, que la police fédérale brésilienne ne démente. Le président Bolsonaro parle, lui, de viscères humains retrouvés. Des expertises sont en cours. Et puis, en bref, aussi, ces pluies diluviennes au Guatemala. 15 personnes sont mortes dans une dizaine de coulées de boue qui ont suivi ces intempéries. Plus de 500 000 personnes sont affectées par ces pluies qui ont commencé au Guatemala depuis début mai. Christophe, certains médias parlent du vol du siècle. On a appris hier au Mexique, au début du mois, une vingtaine de conteneurs ont été volés dans un port de l'ouest du pays. Et certains de ces conteneurs contenaient de l'or et de l'argent.
De l'or, de l'argent et du matériel électronique, détail Milenio, qui parle de vol historique. Même si, précise Excelsior, jusqu'ici, ni le bureau du procureur, ni le port de Manzanillo n'ont donné la valeur même approximative du butin. Les autorités, rapporte le journal, reconnaissent que les vols de containers sont communs dans les états de Jalisco, Colima et Michoacán, mais que la quantité de marchandises volées et les moyens déplacés par les voleurs qui ont manipulé des conteneurs pesant jusqu'à 29 tonnes les ont alertés. L'opération, menée par un commando de 15 personnes, a duré entre 8 et 10 heures, pendant lesquelles ils ont chargé le matériel qui les intéressait sur des semi-remorques, écrit Milenio. L'Universal a interrogé un agent des douanes qui a demandé l'anonymat. Selon lui, ce vol peut s'expliquer par la multiplication des plateformes de chargement illégales qui souvent ne sont pas délimitées par des clôtures et ne sont que peu surveillées.
Christophe, s'il avait été là, ce vol aurait peut-être échoué. Le Batman Aztec, un film d'animation produit par la Warner Bros. Et confié à un réalisateur mexicain, est en préparation.
Oui, le réalisateur s'appelle Juan Mesa León, c'est-à-dire dans l'Universal. La nouvelle a été annoncée hier au Festival International de Cinéma de Guadalajara. Ce Batman Aztec sera le héros d'un long métrage se déroulant pendant la conquête du pays par les Espagnols. Y apparaîtront des personnages fictifs de Gotham City, la ville du Chevalier Noir. Batman défendra l'Amérique précolombienne des peuples premiers. Le film sera donc produit par Warner, mais aussi par la compagnie mexicaine Anima pour la chaîne HBO Max.
Voilà, retour dans le passé pour Batman. La presse avec vous, Christophe Paget, merci.
RFI à La Paz, 106.9 FM.
Des milliers de danseurs et musiciens en tenue traditionnelle. C'était samedi dernier à La Paz, en Bolivie, pour la fête du Grand Poder ou Grand Pouvoir, événement folklorique et religieux dédié à Jésus. Une fête qui génère plusieurs dizaines de millions de dollars chaque année. Alice Campagnol y était pour nous, son reportage.
Les rues adjacentes au départ du défilé du Grand Poder sont en ébullition. Les danseurs en retard cherchent leur place. On achète les derniers accessoires pour compléter sa tenue. Et des salons de beauté improvisés sont installés sur le trottoir. Alors c'est là, à l'angle du cimetière, sur les hauteurs de La Paz, que démarre le défilé du Grand Poder. L'émotion est à son comble. Cette année, les fidèles du Seigneur Jésus du Grand Pouvoir n'ont pas dansé depuis deux longues années.
J'avais sincèrement de la peine, ça me faisait mal de ne pas danser. C'est aussi pour ça que cette année, nous avons de nouveaux costumes.
Je suis très émue, j'ai l'impression que mon cœur va exploser.
Cette édition 2022 est d'autant plus spéciale que les fraternités, ces associations qui réunissent les danseurs, étreignent une reconnaissance internationale reçue en 2019. David Mendoza Salazar, sociologue.
Pour vous dire l'importance de cette fête, elle a été reconnue patrimoine immatériel par l'UNESCO. C'est une fête qui se prépare pendant 6 mois, qui se concrétise en une journée de défilé, qui paralyse toute la ville. C'est difficile de comprendre La Paz sans comprendre cet événement festif.
Et en effet, un défilé qui compte plus de 60 000 danseurs et quelques 7 000 musiciens se prépare plusieurs mois en avance. Il faut répéter les chorégraphies, trouver la bonne fanfare et surtout les couturiers, les tailleurs et les brodeurs doivent travailler d'arrache-pied. Direction l'atelier Coritica de Félix Kiesberg. Sa spécialité, les costumes de la Morenada, l'une des danses qui compte le plus de participants au Grand Poder.
Tout ce que vous voyez là, ce sont des costumes de morenos brodés à la main. Ils pèsent 14 kilos chacun, mais avant, ils pouvaient peser jusqu'à 50 kilos. Un brodeur qui travaille 12 à 14 heures par jour mettra 35 jours pour le confectionner. Pourquoi ? Parce que c'est pas facile, tout est fait à la main. Voyez ces petits sequins, ils sont posés un par un. Nous n'utilisons pas de machine.
On comprend donc facilement son prix, 2 000 $ à la vente, 200 pour la location à la journée. Avec des épaulettes très imposantes, beaucoup de couleurs et un masque surmonté d'un chapeau, c'est un costume qui est très impressionnant. Impressionner justement, briller, c'est là tout l'enjeu de cette festivité. David Mendoza.
Danser avec telle ou telle fraternité importante, c'est se montrer, c'est dire « je suis là, j'appartiens à ce monde ». Il y a vraiment une idée d'identité indigène derrière tout ça, avec cette classe sociale émergente, celle des commerçants, essentielle pour l'économie nationale, et qui a des liens avec l'extérieur également, en important des clous et des tissus par exemple.
Alors les étoffes sont belles et les bijoux brillants, alors la bière aussi coule à flot et on montre ainsi son pouvoir d'achat et sa foi. On estime que ce sont 65 millions de dollars qui ont été générés cette année avec cette fête populaire du Grand Poder que des milliers de spectateurs ont pu admirer samedi dernier. Alice Campagnol, La Paz, RFI.
9h25 à La Paz, en tout cas les photos valent le détour. Je vous conseille d'aller voir ce que ça donne, cette fête du Grand Poder, le grand pouvoir en Bolivie.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec de l'avance, et vous, Tiziana Maron, bonjour.
Bonjour Michael.
On revient sur la marche blanche qui a réuni hier des centaines de personnes à Mana, dans le nord de la Guyane.
Oui, une marche blanche organisée à la mémoire de Benaya Mangal, le lycéen de 16 ans tué à l'arme blanche le 22 mai dernier par un autre jeune homme âgé de 17 ans. Son corps a été retrouvé seulement 10 jours après sa disparition. Plus de 400 personnes étaient donc réunies hier dans les rues de Mana pour un dernier au revoir, mais aussi pour sensibiliser les élèves à la non-violence. Claudine Charles, présidente de la maison des lycéens à Mana, au micro de Myriam Ponnet de Guyane La Première.
L'objectif, c'est de montrer que Fausto et la violence, car ça engendre beaucoup de choses. La mort de Benaya Mangal, notre cher ami, et montrer que la violence ne résout à rien. Franchement, le lycée est en deuil, les élèves n'arrivent pas à digérer ce qui s'est passé et on ne sait pas comment on va faire pour digérer ça. Malgré qu'on a fait beaucoup d'initiatives pour essayer d'améliorer les choses au lycée, mais ça n'a toujours pas encore fonctionné.
Un Guadeloupéen sur 10 est porteur de la drépanocytose. La journée mondiale de lutte contre cette maladie du sang, c'est ce dimanche. En Guadeloupe, elle touche un nombre important de personnes qui peuvent transmettre la drépanocytose à leurs enfants sans en être forcément atteints. De nouvelles avancées thérapeutiques permettent d'améliorer le quotidien des malades, mais l'attente forte reste la généralisation de la greffe de moelle osseuse. Destination la Martinique, 200 000 euros versés par la Fondation du Patrimoine à la distillerie Hardy, située dans le village de Tartane, à l'arrêt depuis 30 ans. Grâce à cette somme, la distillerie peut poursuivre sa restauration avant d'accueillir le public dès l'an prochain. Le reportage est signé Ronan Bonnec de Martinique à La Première.
Immobilisée depuis 1994 et tombée en ruine, la distillerie Hardy, seule survivante parmi les 7 distilleries qu'il y avait anciennement à Tartane, est en train de renaître.
Jean-Pascal Hardy, je suis le gérant de la distillerie Hardy. J'avais vraiment à cœur avec mon épouse de reprendre ce site et de le revitaliser. Déjà dans le but aussi de dynamiser la commune de Trinité, donc le centre atlantique. Tout un coin touristique qui devrait bénéficier d'une attractivité forte.
L'objectif étant de redonner vie à cette ancienne usine du 19e siècle et de mettre en valeur ces machines centenaires en y réimplantant le vieillissement et la vente du rhum. Le siècle dernier, jusqu'à 30 personnes travaillaient dans cette distillerie. Parmi les habitants de Tartane, Francis Claude et Daniel Chance se souviennent.
Qu'elle soit réhabilitée, c'est une très bonne chose parce que ça va nous permettre de revivre un petit peu toute l'époque qu'on a connue dans les années 60-70.
La majeure partie des grandes personnes maintenant, ils ont travaillé à l'usine, à la distillerie Hardy. Et j'en ai connu beaucoup.
Et oui, c'est toute une époque qui refait surface avec la réhabilitation complète de la distillerie Hardy. La fin des travaux est prévue pour 2023.
Un reportage de Ronan Bonnec de Martinique La Première et c'est la fin de cette édition. Bonne journée.
Merci beaucoup à vous, Tiziana Maron, et aux équipes de La Première.
Rejoignez la communauté de RFI sur les réseaux sociaux. Sur nos pages Facebook, vous pouvez suivre, commenter l'actualité et dialoguer avec vos animateurs préférés. Restez aussi connectés avec nous sur Twitter et découvrez nos dernières images sur le compte Instagram de la Radio Mondiale.
Voilà, et sur Twitter, vous le savez, vous pouvez suivre le rendez-vous d'Haïti et des Amériques, @RFIAmérique, toute l'actualité qui concerne l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et les Caraïbes, que vous pouvez partager et commenter. Vous suivez aussi le rendez-vous d'Haïti et des Amériques sur notre compte Facebook. Ainsi se termine cette édition qui a été aujourd'hui réalisée par Claude Battista. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Je vous souhaite à tous une très bonne journée à l'écoute de la Radio du Monde.
RFI.
au cœur du marché de Bujumbura
ou sur les bords du lac Tanganyika,
RFI à Bujumbura sur 96.1 FM.
Dans le quartier de Gracia
ou tout au long de la Ramblas,
RFI à Barcelone sur 105.3 FM.
Dans les rues de Pétionville
ou dans les allées du marché en fer,
RFI à Port-au-Prince sur 89.3 FM.
Pour connaître nos fréquences dans le monde, connectez-vous sur RFI.fr.
Le quotidien, l'opinion et